C'était donc la Java des bons enfants du groupe Les Amis de ta femme. On va se diriger vers un nouveau point, un petit peu une réflexion sur un petit peu où va la démocratie, entre guillemets, bien sûr, hein, puisque vous aurez compris qu'on est très critique envers cette notion de démocratie. Et on va donc se poser la question de où va vers, vers où va cette démocratie. Et on va partir de trois un peu point de départ que nos camarades vont se faire un plaisir de présenter.
Oui, alors en premier, donc des images et des témoignages de violences policières tournent sur Internet. Donc des scènes horribles, des violences gratuites, avec des techniques de la part de la police qui, on le sait, peuvent conduire à la mort de l'interpellé. Ainsi, la semaine dernière, trois personnes sont mortes durant des interpellations liées à de supposées violations du confinement. Dans la nuit du 9 et 10 avril, un homme de 28 ans, pour échapper à un contrôle de la BAC, se jette dans la Charente à Angoulême et il se noie. Sans compter, par exemple, aussi la fillette qui a été éborgnée par un tir de flashball à Chanteloup-les-Vignes.
Dans le travail, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Les éboueurs de Poitiers se sont mis en grève pour obtenir une prime de risque et pour demander des EPI, donc les fameux équipements de protection individuelle. Face à cette insubordination insoutenable, notre bon maire, bon vieux Alain Claës, a demandé au préfet un ordre de réquisition. Allez hop, au boulot, on comptera les morts après. Certains citoyens se lâchent sur Centre-Presse. Ainsi, on peut lire un petit commentaire de Monsieur L. Prince, donc un commentaire qui a du 10 avril sur cet article de Centre-Presse. Le summum de la honte du mouvement social. Il n'y a plus de risque à faire ce travail en ce moment que le reste de l'année. C'est une grève opportuniste, immorale, sans fondement, et la population saura s'en souvenir. Attention. Voilà, ambiance, ambiance, ambiance.
Alors, concernant la justice, on en parlait dans une émission précédente. Sur ordonnance ministérielle, toutes les personnes en détention provisoire sont maintenues en prison sans qu'aucun jugement ne soit rendu. Et pour le peu d'audience maintenue, les visioconférences se multiplient. Alors, les avocats de Poitiers rappelaient hier que, ils n'interviennent plus ni à la prison de Poitiers-Vivonne, ni en garde à vue, ni en psychiatrie pour les hospitalisations d'office, au nom de précautions sanitaires insuffisantes. Alors que le gouvernement se targue de la libération de près de 6 000 prisonniers, la justice poursuit les comparutions immédiates et les prisons continuent de se remplir dès aujourd'hui et pour l'après-confinement. Et oui, près de 60 mois de prison ferme ont déjà été distribués pour violation du confinement. De quoi rendre visible que la justice n'a en rien infléchi sa politique de répression et d'enfermement à tout va.
Alors Daria, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces trois éléments qui n'ont pas forcément de lien indirect entre eux?
Bah, ce qu'on peut constater, c'est que dans tous les cas, l'autoritarisme et l'arbitraire se retrouvent renforcés durant cette période de confinement. C'est-à-dire que d'un côté, par exemple, enfin, les individus qui composent la société sont de plus en plus mis au pas. C'est-à-dire d'un côté, la police laisse libre cours à sa violence qu'elle décuple. D'un autre côté, celles et ceux qui refusent de risquer leur vie au travail pour une économie qui les récompensera de miettes sont forcés au travail via des réquisitions, des ordres de réquisition, et sont en plus vraiment enfin, raillés ou sont vraiment pointés du doigt par certains citoyens. Et d'un autre côté, on peut voir que la justice fait encore moins de détails, puisque on va en prison sans qu'il y ait aucune décision de justice et uniquement en attente d'un procès. Donc de fait, ce qu'on peut constater, c'est que là, entre guillemets, hein, la démocratie, qui est une démocratie bourgeoise, est suspendue. Et en fait, le masque tombe de plus en plus. Avec l'état d'urgence sanitaire, il faut se rendre compte en fait que tout individu dans l'espace public est suspect. Et donc, il est contrôlable, il est réprimandable, voire même violentable par la police, en fonction du critère de respectabilité qu'elle est la seule à mettre en place, puisqu'on peut voir par exemple que dans les quartiers populaires, la violence y est beaucoup plus prégnante que dans d'autres secteurs de la société. Par beaucoup d'aspects, en fait, ça ressemble de plus en plus à un état policier. Mais il faut aussi se rendre compte que la police n'est pas toute seule. Elle est aidée par les bons citoyens, qui sont aussi de bons confinés. C'est-à-dire que la délation a explosé. Ainsi, on dénonce son voisinage car il ne respecterait pas le confinement. Dans les grandes villes, jusqu'à 70% des appels pour la police concerneraient des délations, ce qui a commencé à alarmer certains syndicats de police. Ainsi, selon une source France Info, dans la Nouvelle-Aquitaine, on estime que 50% de ces appels seraient uniquement faits pour dénoncer des voisins. La plupart de ces appels auraient surtout lieu dans la région de Bordeaux, alors que par exemple dans le Poitou-Charentes, il y aurait très très peu d'appels, ou tout du moins l'ex-Poitou-Charentes. Mais il y a encore pire, puisque par exemple en région parisienne, le maire de Montgeron a carrément invité ses administrés à dénoncer les autres administrés. Au final, c'est vraiment l'état policier, le flicage interindividuel qui s'infiltre parmi les personnes qui composent ces sociétés. C'est-à-dire que le citoyen devient un citoyen flic.
Oui, et quand là on évoque le mauvais confiné, il faut faire attention, hein. Il s'agit bien sûr d'une figure mise en avant par les gouvernements et relayée par les médias, alors qu'en réalité, le plus mauvais déconfiné, si je puis me permettre, c'est l'État, qui, on ne va pas le répéter, fait n'importe quoi depuis le début, et puis ce sont aussi les patrons, qui ont du mal visiblement à fermer leurs usines et qui ne fournissent pas de moyens de protection suffisants pour les salariés. Donc en fait, les gouvernants se sont trouvés un nouveau bouc émissaire, le mauvais confiné. Et Didier Lallemand, donc chef de la police parisienne, l'a même dit. Il a dit « Ceux qui sont à l'hôpital seraient ceux qui n'ont pas respecté les règles du confinement ». Alors effectivement, si ce truc est gros et indigne et a indigné tout le monde à ce moment-là, il faut rester attentif à ce que ce ne soit pas le prétexte, le mauvais confiné, pour toujours plus de surveillance et d'autoritarisme.
Oui, parce qu'on est bien sûr toujours dans les logiques de prétexte, hein. Ce sont les logiques d'autoritarisme et de surveillance de la part de l'État sont inhérentes à cette fonction au sein de la société capitaliste, et que le déploiement des technologies sécuritaires ne va faire que se renforcer en fait pour surveiller, contrôler et réprimander la population. On le voit déjà, on en a parlé, on a des hélicoptères infrarouges qui survolent Nantes pour chasser les gens qui bravent le confinement. À Nice et à Paris, on a des drones. D'ailleurs, sur la question des drones, l'État vient de faire un appel d'offres pour 650 drones pour un montant de 4 millions d'euros. Donc drones, s'ils sont livrés à temps, qui serviront pour surveiller les confinés, mais qui ne manqueront pas d'être utilisés après pour mater et contrôler les mouvements sociaux. On parle aussi d'une application de pistage qui serait à la base, sur la base du volontariat, pour mieux connaître et lutter le Covid-19, mais on sait que tout ça, ce sont des processus qui vont nous fliquer encore plus. Pour cette application, il n'est pas dit que le volontariat soit longtemps de mise, et il n'est pas dit que l'application soit efficace si elle est obligatoire, et on peut voir que dans d'autres pays, on en a aussi un petit peu parlé, notamment en Asie, le flicage via les nouvelles technologies, les téléphones, ce genre de choses, sont des dispositifs intégrés du contrôle des populations, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le marché de la peur, lui, et du contrôle, il va se porter à merveille. Et en fait, quoi de mieux qu'une crise sanitaire pour relancer la machine du tout sécuritaire pour vendre des équipements de contrôle des populations.
Mais est-ce que c'est simplement propre à la période de confinement?
On peut se poser la question quand même de qu'est-ce qui va se passer effectivement à la fin du confinement. À vrai dire, il est quand même peu probable que cet excès d'autoritarisme soit passager, malheureusement. Il est probable qu'il mute, qu'il change d'aspect, c'est-à-dire qu'on sera plus en lutte contre le Covid-19, mais qu'il y aura une nouvelle lutte. Et notamment, par exemple, une guerre économique. Puisque, on l'a dit, on l'entend énormément dans les médias, dans la bouche des politiques, dans la bouche de tout un tas de dirigeants, que la sortie de la crise va être dure. Ce qui, en fait, cette sortie de crise sanitaire va être dure parce que ça va être une crise économique qui est encore une énième crise du capitalisme qui se régénère en permanence justement par les crises. Et c'est ça qui nous attend au bout de ce premier tunnel. Ça va être effectivement le premier tunnel, c'est la crise sanitaire ou la situation sanitaire. Le deuxième tunnel, ça va être la situation économique. Alors, si pour certains, nous sommes en guerre sanitaire, pour les mêmes personnes, on sera en situation de guerre économique pour relancer l'économie. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles pour relancer une économie qui, on se demande beaucoup et souvent à quoi elle nous sert réellement, et les dominants nous y préparent dès maintenant. Ainsi, par exemple, le MEDEF propose de faire sauter des jours fériés, de reporter les RTT, les vacances, ou de modifier le régime des heures supplémentaires. Une partie de la classe politique, bien sûr, applaudit. Ainsi, Damien Abad, qui est le président du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée, déclare que le travailler plus devra se traduire par un gagner plus. Comme si, travailler plus pour gagner plus, c'est un discours qu'on a déjà entendu et on en a vu la couleur. Ces propositions, bien sûr, ne tombent pas dans l'oreille sourde du gouvernement. Mais il faut savoir, en fait, il faut se rendre compte que cette situation, elle est déjà préparée et de fait, elle est déjà légale. Puisque la loi d'urgence sanitaire, on en avait déjà parlé, qui a des volets sur la modification du temps de travail dans certains secteurs, est applicable jusqu'en décembre 2020. Il tient à pas grand-chose à ce que ces dispositions de modification du temps de travail non seulement soient élargies dans le temps, mais aussi au tout reste de la société. Il est certain que le pouvoir politique et économique fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tout le monde soit à sa place et contribue jusqu'à en mourir à la perpétuation d'un système dégueulasse et injuste. Ainsi, il ne sera pas étonnant de voir s'appliquer une vieille marotte des pouvoirs, à savoir mettre au travail les gens au RSA. En effet, ça fait quand même quelques années que, pareil, dans les médias, dans la bouche des dominants, on entend régulièrement le fait que certains départements, notamment qui sont en charge du versement du RSA, souhaiteraient que les bénéficiaires du RSA travaillent gratuitement ou fassent du bénévolat. Ainsi, par exemple, le département de la Vienne a mis à l'ordre de ses priorités pour l'emploi et l'insertion l'accompagnement des bénéficiaires du RSA via ce qu'il appelle des clauses sociales, ce qui sont des dispositifs pour mettre les gens au RSA au travail. Le président du département a ainsi déclaré en fin d'année dernière avoir exigé un certain nombre d'heures soient effectuées par les bénéficiaires du RSA sur les propres chantiers de la collectivité départementale, comme par exemple l'ARENA ou le 35e collège, un projet de collège en construction à Vouneuil-sous-Bois. Pour avoir un petit peu une idée du climat qui pourrait nous attendre, les travailleurs et les Françaises, les travailleurs français et françaises en France mais aussi ailleurs, donc de ce climat de guerre économique qu'on risque de nous instaurer, on peut regarder le documentaire Les Gueules Noires qui a été diffusé très récemment sur France 2, qui est éclairant à ce sujet. Pour résumer brièvement, en fait, après 45, donc après la guerre mondiale, la guerre ne s'est pas finie le 8 mai. C'est-à-dire en fait qu'on a fait des ouvriers et des ouvrières les nouveaux soldats de l'économie, les nouveaux soldats du front économique pour se reconstruire économiquement après cette guerre mondiale. Les Gueules Noires notamment étaient le surnom des mineurs qui ont été fortement mis à contribution. Notamment, c'est dans cette période que, dans l'après-guerre, qu'il y a eu les grandes grèves insurrectionnelles de 1947, dont pas grand monde se souvient. Et en fait, ce sont des grèves très importantes qui ont eu lieu à la fois sur un fond de rivalité purement politique entre le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti gaulliste. Mais c'est un grand mouvement social dans lequel un grand nombre de grévistes se battaient surtout pour des conditions de vie meilleures, de meilleures conditions de travail, dans un contexte de reconstruction nationale où on a vraiment tiré sur la corde au maximum des travailleurs. Alors actuellement, avec toute la rhétorique guerrière et martiale qui tourne, avec les promesses d'une reconstruction de la nation, il est probable que cette sortie de confinement ne se fasse pas en douceur sur la question du travail. Il serait donc à la fois très intéressant, il serait donc très intéressant de se poser dès maintenant la question et de mettre en pratique le fait de urgemment se débarrasser du salariat qui permet en fait au système capitaliste de perdurer et de se débarrasser aussi de la démocratie bourgeoise capitaliste qui donne un cadre politique légal à ce système d'exploitation des individus via le salariat. Voilà un petit peu pour ce point sur les projections sur la démocratie, hein, on l'espère négative, mais en tout cas le futur malheureusement ne présage pas forcément grand chose de bon. Et on va se faire une petite pause musicale d'un groupe local, on va s'écouter Molo Molo.
Et vous êtes bien à l'écoute de Fracture. On vient d'écouter l'A7 du groupe Molo Molo. On arrive à la fin de cette émission. Daria, il me semble que tu as, pour terminer, quelques informations à nous filer autour de la solidarité.
Oui, tout à fait. Quelques informations glanées sur les internets, principalement de la solidarité locale. Donc, on en avait un petit peu parlé il y a quelques temps, la semaine dernière, je crois. Mais en tout cas, pendant le confinement, le pôle santé sociale Relais Charbonnier reste ouvert au 14 rue du Mouton à Poitiers, du lundi au vendredi de 14h à 18h30, de 14h à 17h30, le jeudi à partir de 14h30. Au Relais Charbonnier, vous pouvez être accueilli, échanger avec un travailleur social, bénéficier d'une consultation médicale. Il est néanmoins préférable d'appeler pour savoir les services qui sont proposés et si les services sont toujours actifs. Même si on a regardé les informations aujourd'hui, il faut toujours aller vérifier sur l'internet, c'est toujours mieux. Et on peut les appeler au 05 49 38 45 10. En revanche, le restaurant social Le Toit du Monde, qui est attenant au Relais Charbonnier, est lui fermé. Sur la question du don du sang, qui est toujours en activité à l'heure actuelle, les collectes se maintiennent, notamment au salon de l'Ossac. En plus des précautions d'usage, c'est-à-dire alimentaire, alcool, drogue, pour pouvoir donner son sang, il y a des mesures spéciales Covid-19 qui ont été mises en place. Il convient donc de s'inscrire pour donner son sang sur le site resadon.fr, où il y a la liste des sites de collecte de sang. Autre info collectée sur Internet, un frigo solidaire a été mis en place à Poitiers, au centre-ville, au niveau du bar L'Envers du Bocal. Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette initiative solidaire sur la page Facebook Frigo Solidaire Poitiers. Autre nouvelle, il faut savoir que certains services municipaux sont encore plus ou moins actifs. Pour savoir un petit peu comment les services municipaux sont ouverts, s'il y a des dispositifs de solidarité qui existent dans vos quartiers, mais aussi par exemple pour savoir comment fonctionne le couvre-feu qui a été mis en place par monsieur le maire et qui est prolongé jusqu'au 11 mai, on recommande d'aller voir le site d'information de la mairie dans l'onglet Covid-19 et de naviguer un petit peu dans les différents sous-menus pour se tenir au courant de l'actualité et des différentes choses qui existent encore qui fonctionnent encore auprès de la mairie de Poitiers. On va signaler encore un Facebook local, à savoir le Facebook de Action Collective Poitiers, sur lesquels on pourra trouver différentes informations, initiatives, tutoriels pour se débrouiller et être solidaire durant cette période de confinement et période de vie difficile pour de nombreuses personnes. Enfin, dernière information de solidarité, ainsi face à la grande précarité d'un grand nombre de travailleuses et travailleurs du sexe qui sont à l'heure actuelle sans revenus, le STRAS, syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe, a mis en place et recensé différentes caisses de solidarité qui se sont créées pour pouvoir soutenir ces personnes qui sont à l'heure actuelle sans revenus dans une grande misère financière. Ainsi, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site http://stras-syndicat.org, sachant que Stras s'écrit S-T-R-A-2-S. Voilà pour ce dernier point, solidarité, pour clôturer l'émission.
Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante fracture au pluriel avec un S donc @autistiki.org, AUTISTICI.org. À bientôt. Ciao.